démarre pour cette seconde table ronde avec un thème assez large. Entreprises, consommateurs, métropoles, les fintechs proposent des solutions claires et accessibles à tous. Pour maximiser le temps de parole des panélistes, une très brève introduction. Si on reprend aussi l'allégorie de David et Goliath, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une notion aussi de foi. Donc il faut quand même croire au changement. On voit qu'il peut y avoir des initiatives qui peuvent paraître David comme Goliath, mais qui ont marché. Je prends l'exemple de Yuka, qui dans la grande consommation, on voit, arrive à changer aussi les comportements et à avoir un effet bénéfique sur la société, a priori. On verra comment ça évolue. Donc voilà, je vais passer directement le micro aux participants et déjà faire un premier tour de table pour que brièvement on nous présente les activités de chacun et que vous sachiez qui fait quoi dans cette table ronde.
Bonjour, je suis Pierre Valentin, je dirige une société de gestion qui s'appelle Ecofi Investissement, qui fait de la gestion de fonds ISR. Mais surtout, je suis ici en tant que président du comité de labellisation de la filière ESS et finances durables du pôle finance innovation. Donc, on a fait un certain nombre de labellisations au cours des dernières années. En particulier, on a labellisé un des participants à la table ronde précédente. Et puis, ici aussi, dans cette table ronde, on a labellisé.
C'est pas moi. Bonjour, je suis Jérôme Verdiel, je suis cofondateur d'une fintech qui s'appelle ABCSR. ABCSR propose des indicateurs de performance RSE et une notation extra-financière à destination des PME et des TPE.
Bonjour, Kamel Aitoutaleb, je suis fondateur d'OnlyOne, une néobanque à impact positif. Donc nous créons un compte de paiement, une carte de paiement qui va permettre à nos clients de mesurer justement leur empreinte carbone et de pouvoir agir dessus en passant par un triptyque qui est la mesure, ensuite la réduction et la compensation, la séquestration. Donc on a démarré le projet l'année dernière, on a été labellisé par le pôle en 2019, en juin, et on espère pouvoir lancer notre offre début 2020.
Bonjour, Loïc Poujol. Donc, je m'occupe d'un projet qui s'appelle PureChain. C'est un projet blockchain de traçabilité et de suivi des filières qui s'adresse notamment au secteur avec un impact climatique important comme l'agriculture, les cosmétiques. On a aussi travaillé sur les filières de santé. Et c'est un projet qui vient tout juste d'être labellisé. Je crois qu'on sera officiellement labellisé le 11. Donc, j'avance un peu les choses. Et l'idée, c'est de fournir à des acteurs qui n'ont pas forcément une très grande taille un outil qui leur permet d'établir de la donnée tangible et de montrer leur impact en termes de qualité, leur impact en termes de carbone notamment, et de suivi des filières avec une solution SaaS, c'est-à-dire une solution qui est simple, qui est en ligne et qui n'exige pas de développement informatique du côté de l'utilisateur.
Très bien, merci. Première question, et là qui s'adresse à vous tous, comment on va sur le marché lancer une offre et comment on arrive à attirer des consommateurs ou des entreprises, puisqu'on a la chance d'avoir différents types de segments de clientèle représentés sur cette thématique du changement climatique.
Alors, là-dessus, sur l'accès au marché, en tout cas dans le secteur de l'innovation, c'est effectivement un point difficile. Il y a les problèmes de notoriété, il y a les problèmes de time to market aussi qu'on a bien vu sur la blockchain. Alors pour le coup, ce n'est pas du tout David contre Goliath. On ne joue pas comme ça, c'est plutôt David avec Goliath. C'est essayer de trouver des parrains, essayer d'avoir des gens qui ont déjà un accès au marché, qui peuvent porter vos solutions. Nous, on a pas mal travaillé avec Microsoft notamment, qui a poussé le projet sur ces différentes plateformes. On a travaillé avec des acteurs en place qui étaient déjà sur de la mesure d'impact, notamment Pure Projet que certains doivent connaître. Et on a travaillé avec Orange en essayant de trouver des synergies avec leurs propres solutions technologiques sur les objets connectés. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur la valeur et pas forcément trop sur le marketing. Enfin, nous, notre vision est d'essayer d'avoir un accès au marché porté par des gens qui sont déjà des consommateurs. Mais ça reste un point pas simple.
Alors de notre côté, la néobanque, déjà on a un avantage par rapport au marché, c'est que le marché de la néobanque a été évangélisé par des gros acteurs qui déjà ont acquis des millions de clients en France, notamment je pense aux néobanques allemandes et anglaises, mais la française aussi, nickel. Le go-to-market, on parle du go-to-market, du time-to-market, nous on pense qu'effectivement c'est On est dans l'air du temps. Pourquoi? Pour la simple raison que une enquête est sortie il n'y a pas très longtemps d'Ipsos, qui est Opscop, à propos de l'impact climatique d'un point de vue citoyen sur 30 pays, sur les 5 continents. 9 sur 10 aujourd'hui sont conscients qu'effectivement il y a un véritable enjeu. Donc ce n'est plus un sujet qui en tout cas déjà est tabou, mais en plus qui est maintenant très connu et on commence à connaître les conséquences. Et d'ailleurs, sur cette enquête, lorsqu'on pose la question à votre avis qui doit agir, la première réponse c'est l'État, la seconde c'est les consommateurs et ensuite viennent les entreprises. Donc il y a une vraie prise de conscience et effectivement par rapport au time to market, il y a cette nécessité aujourd'hui par rapport aux clients de se dire comment on agit. Des solutions actionnables rapidement, il en existe très peu, vous avez fait référence à Lucas. Mais quand on a des rapports qui nous disent que 12 tonnes de les habitants français émettent 12 tonnes et qu'on devrait être à 2 tonnes d'ici à 2030 ou 2050, concrètement, comment je le sais, comment j'agis et les gestes que je fais au quotidien, comment je peux les mesurer et comment je peux avoir un impact dessus. Donc, effectivement, le marché aujourd'hui, j'aimerais vous donner le chiffre, vous dire qu'effectivement, on a conquis 100 000 clients, on espère le faire demain. Mais effectivement, en termes de time to market, c'est le moment. C'est le moment, il y a une vraie prise de conscience et notre offre arrive au moment où effectivement il faut la jouer et puis proposer des solutions directement à ce moment.
Merci. Moi, je vais revenir vite fait sur le lien aussi entre ces indicateurs RSE et ma présence sur cette table ronde. En fait, nos indicateurs sont alignés sur l'ISO 26000, pour ceux qui connaissent. Et dans l'ISO 26000, voilà, vous avez forcément un axe qui est l'environnemental. Et donc, on a 3-4 indicateurs qui répondent, qui mettent en avant, du moins, la performance RSE sur cet axe-là pour les entreprises. Donc, notre marché, nous, c'est des PME, des TPE. Donc c'est vraiment un marché qu'on doit évangéliser sur ce sujet, puisque on n'est pas soumis, elles ne sont pas soumises, ces entreprises, à des obligations réglementaires, contrairement aux sociétés cotées, aux grands comptes, etc. Donc nous, on pense qu'on est vraiment pile poil dans le time to market. Bon, on est déjà en traction, on vend déjà, etc. Donc on a cet avantage d'avoir un retour marché depuis maintenant quelques mois. Évidemment, ces 3 millions d'entreprises françaises et demain européennes, beaucoup plus. Les dirigeants ne se lèvent pas tous les matins en disant tiens, il faut que je mesure ma performance RSE. Donc il va falloir les motiver, il va falloir effectivement leur faire prendre conscience que c'est important pour eux, mais je crois que ça fait l'objet d'une autre question plus tard. Comment les toucher? Les toucher par les gens qui accompagnent ces entreprises. Qui accompagne une entreprise, une PME, une TPE, ce sont son avocat généralement, son expert comptable, sa banque. Donc, parmi ces 3 acteurs principaux, on va en toucher 2, nous, qui sont les experts comptables et les commissaires aux comptes pour les plus grosses, qui aujourd'hui, clairement, ont besoin de se renouveler dans leur offre. Et on leur propose, puisqu'ils ont déjà la data, puisque nous, notre système fonctionne à partir de l'évaluation, les indicateurs, on les calcule à partir de l'évaluation des bilans des entreprises, pas des bilans carbone, des bilans financiers. Donc ils ont déjà cette data, ils vont pouvoir proposer ce service-là à leurs clients. En ce qui concerne les banques, je crois qu'il y a quelques représentants ici dans la salle, effectivement, ça en intéresse certaines sur des POC à venir, pour proposer également un service automatisé de calcul d'indicateurs à notamment des sites TPE, via des marketplaces, etc. Et donc après, on aura d'autres canaux aussi.
Alors le label a pour but évidemment d'aider toutes ces entreprises à mieux accéder à des consommateurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est un groupe de bénévoles qui peuvent, avec leurs différentes compétences, apporter éventuellement des conseils à ces entreprises. Il y a la remise du label qui est un élément de notoriété. Il y a aussi l'occasion, lors justement de ces journées du label, de faire un peu de networking, puisqu'il y a quand même pas mal de monde qui assiste. Il y a toutes les filières qui sont réunies. Et puis, il y a un coaching qui est gratuitement apporté en même temps que le label est octroyé. Voilà, donc on essaye de faire le maximum, mais évidemment avec des moyens qui sont ceux du pôle finance innovation et qui ne sont pas énormes.
Très bien. Est-ce qu'on peut noter des différences notables quand on s'adresse aux consommateurs finaux ou à des entreprises, donc finalement entre le B2C et le B2B, sur ces questions environnementales, en termes de drivers et de déclencheurs?
Alors, je vais au moins répondre pour la partie B2B, parce que nous, on est uniquement en B2B. Je vous disais tout à l'heure, on est sur un marché d'offres. Hein. Il y a peu de demandes aujourd'hui du type d'entreprise que l'on va viser. Donc, moi, j'aurais rajouté quelque chose, c'est qu'effectivement, on a tous conscience que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est un sujet d'urgence. Je pense qu'on est tous bien connectés là-dessus. Par contre, pour autant, moi, je ne veux pas jouer le père Fouettard. Je ne veux pas stigmatiser au quotidien des entreprises, des dirigeants qui ont déjà suffisamment de contraintes dans leur vie de dirigeant pour encore leur ajouter voilà, un input négatif. Donc l'idée, c'est de leur faire prendre conscience que ces sujets-là sont également des éléments de compétitivité pour leur entreprise. Et que demain, sur leur partie prenante, à commencer par leurs collaborateurs, actuels ou futurs, sur leurs donneurs d'ordre, les grandes entreprises qui les font travailler, et puis surtout tout un tas d'autres parties prenantes, ils ont intérêt, leurs clients bien sûr, ils ont intérêt à bouger, ils ont intérêt à se mettre en mouvement, ils ont intérêt à pouvoir mesurer et à prouver qu'ils font quelque chose. En tout cas, même s'ils ne sont pas d'excellents élèves, ils peuvent démontrer qu'en commençant à mesurer qu'ils sont en mouvement et qu'ils sont dans un plan d'action, une volonté de s'améliorer. Voilà, moi je tiens beaucoup à faire passer ce message, arrêtons de stigmatiser et mettons plutôt du positif dans notre communication autour de tous ces sujets.
Alors sur la partie B2C, c'est un des challenges, hein. C'est effectivement la question climatique, on la connaît, on est tous ici pour en discuter, on est conscient. Au niveau de l'individu, c'est vrai que la communication aujourd'hui qu'on a sur ce sujet-là, elle est anxiogène, donc on ne veut pas ajouter plus d'anxiété par rapport à ça. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une communication qui est saine, une communication qui fasse avancer les choses et d'accompagner nos clients plutôt que de les juger. Donc l'idée n'est pas de dire vous êtes un pollueur, vous avez 21 tonnes à l'hectare français moyen de 12, c'est de dire aujourd'hui on a un constat, voilà, effectivement vos émissions liées à votre consommation, à vos dépenses et du temps, comment on vous accompagne, on vous donne les moyens pour pouvoir justement réduire cette empreinte carbone. Et on est convaincu effectivement avec ce qui se met en place au niveau des entreprises que le choix d'une entreprise plutôt qu'une autre par rapport à son impact environnemental va être de plus en plus fort. Il y a une étude de Gartner Prédictive qui dit qu'effectivement 55% des consommateurs vont mettre dans la balance d'achat les valeurs portées par l'entreprise et l'impact qu'elles ont aussi sur la société. Donc l'idée, c'est de pouvoir agréger tout ça, toutes ces données, pouvoir faire en sorte que le client sache où il va, que ce soit une consommation éclairée et pas effectivement être le perfectoire en disant ce que vous faites, c'est pas bien.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jérôme. Un des points clés, la difficulté, c'est de démontrer de la compétitivité dans la mise en place de ces programmes, qu'ils soient climatiques ou sociaux, et de savoir qui va porter la valeur. Est-ce que c'est l'entreprise qui va le porter, enfin porter les coûts pour des logiques marketing, ou est-ce que c'est à un moment le consommateur qui va payer le surcoût parce qu'il a un avantage de qualité? Justement, sur la différence d'approche entre les consommateurs et les entreprises, il y a un moment où ça converge, mais c'est le moment où ils commencent à plus être d'accord. C'est-à-dire le moment où il y a une crise de confiance. Quand il y a une crise de confiance, et c'est vraiment la réflexion que nous, on avait eue autour des vaccins avec Orange, c'est-à-dire quand une crise de confiance s'instaure entre le B2B et le consommateur final, là, il y a très vite de la valeur à donner parce que la compétitivité est évidente. Il y a une bascule qui risque de se faire, où il risque d'y avoir des effets, des litiges, des contestations. C'est aussi un peu l'approche de Turbo Céréales qu'on a vu tout à l'heure, c'est de dire je finance une filière et je vais, comme c'est une filière qui commence à être en crise de confiance, rapporter des éléments tangibles pour rassurer le consommateur, et là les différents acteurs économiques seront beaucoup plus prêts à le payer que quand c'est un élément un peu gadget dans un premier temps si la compétitivité n'est pas établie, si aucun compétitivité n'est pas établie.
On a parlé de essentiellement de transition écologique. Moi, je voudrais rappeler qu'il s'agit de parler aussi d'une transition écologique et solidaire. Et donc, un point qui me paraît important dans la modification des comportements et qui me rend plutôt optimiste, c'est que l'innovation technologique est souvent la base de très fortes innovations sociales et qui marche bien. On a labellisé il y a quelques années une société qui s'appelle Microdon, qui est bien connue, et qui permet de mobiliser la générosité des salariés avec l'arrondi sur salaire. Et c'est un truc qui aurait été totalement impossible avant la montée en puissance des technologies. Donc il y a un certain nombre d'outils d'intégration sociale ou de solidarité qui viennent fondamentalement de l'innovation technologique. Et je crois que l'exemple aussi du micro-immobilier qu'on a vu lors de la table ronde précédente illustre bien ça.
Transition parfaite. Du coup, en quoi, puisque dans FinTech, il y a quand même RepTech, en quoi, dans vos expériences respectives, la technologie a été un accélérateur ou un enabler, comme on dit, pour le lancement de vos offres et leur pérennité?
Alors, nous, notre offre, elle n'est pas, c'est pas un waouh techno, c'est pas vraiment, on n'est pas sur des techno-blockchain, en tout cas aujourd'hui, même si on a une base solide avec des algorithmes, etc. Par contre, je trouve que la tech, à nous, elle nous sert à pouvoir améliorer la diffusion, notamment donc dans l'usage pratique de nos indicateurs. Elle nous sert à pouvoir scaler facilement le modèle. Elle nous sert à pouvoir proposer un package presque plug and play à nos partenaires. Je vais parler d'experts comptables, mais réseaux bancaires, sociétés de notation financière aussi, qui sont intéressées par ce qu'on fait. Donc voilà, je pense que c'est la tech côté utile, facilitatrice, que je retiens. Et pour ça, elle n'a pas besoin d'être, enfin, pas de faire de la R&D pendant 3 ans, quoi. Il y a des briques de techno qui existent. On peut les prendre, elles sont sur le marché, on peut les associer et ça en fait quelque chose de pragmatique et d'utile. C'est en ça que je trouve que la techno d'aujourd'hui est bien.
Alors la techno de notre côté, effectivement, c'est un accélérateur, forcément. Créer une néobanque, ou en tout cas un compte de paiement il y a 10 ans, c'était, je pense que c'était assez difficile et je pense que les premières personnes ont dû boulot. Aujourd'hui, avec les banques de services, je pense notamment au Trésor, qui nous permet de nous intégrer très rapidement au travers d'API.
Peut-être juste donner une micro-définition de la banque as a service.
Banque as a service, grosso modo, c'est un système bancaire qui est proposé en marque blanche. Ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, on travaille sur l'application, sur notre offre de valeur, donc on a pu se concentrer sur tout ça et toute la partie compte de paiement, IBANisation, carte bancaire, prélèvement SEPA, etc. Tous ces sujets de core banking, on n'a pas eu se les poser parce que la technologie existait. Et voilà, des briques qu'on peut aller chercher au final en fonction de nos besoins et en fonction des fonctionnalités. Donc ça nous a permis d'aller assez rapidement par rapport à ce sujet et pas de perdre du temps sur cette partie-là et de nous concentrer vraiment sur la valeur. On parlait de technologie au niveau de la solidarité aussi. Une des propositions qu'on a aussi sur notre offre, c'est le mécanisme d'arrondi supérieur. On va arrondir les montants des dépenses pour pouvoir les mettre de côté sur la wallet et de proposer justement de verser à des associations ou participer justement des projets de compensation, de séquestration avec participer à refaire la station. Donc effectivement, la partie technologique fait qu'on peut aller très vite aujourd'hui. C'est un des gros avantages. Et la gestion des données aussi, gérer toutes les données bancaires. Et c'est la grande difficulté des banques aujourd'hui, même si elles travaillent beaucoup dessus, c'est j'ai énormément de données, comment je peux les traiter aujourd'hui pour pouvoir justement proposer des choses à ses clients, ou en tout cas à nos clients, qui sont aussi en fonction des valeurs qu'on porte et des projets qu'on a.
Alors nous on est des geeks, hein, donc c'est la finance qui nous semble très compliquée comme sujet. Mais c'est vrai que c'est intéressant, toute la réflexion, on est dans la blockchain depuis 3-4 ans, de voir un potentiel techno qui était génial et incontesté, et de se dire comment on va trouver une expression de marché là-dessus. Donc très vite on est arrivé sur les problématiques de traçabilité, parce que c'est vraiment la techno qui permet de le faire de la façon la plus fiable et la plus transparente. Sur les logiques d'infrastructure de marché, on est remonté derrière vers la valeur d'usage à partir de la techno. Mais c'est vrai que le même projet sans la blockchain serait d'abord beaucoup plus coûteux et puis ensuite beaucoup moins fiable et offrirait des perspectives qui sont beaucoup moins importantes puisque grâce à la blockchain, on a une infrastructure qui crée une donnée qui est divisible, qui est fongible, tout ça centré, permettant de faire des infrastructures, de faire des échanges assez simples. Donc pour nous, c'est vraiment au cœur du sujet, quoi. Mais c'était notre activité de départ.
Du coup, si on poursuit cette réflexion, est-ce qu'il n'y a pas un risque, puisque tout peut s'accélérer, tout peut aller plus vite, à ce que vos clients, consommateurs ou entreprises, se perdent parmi pléthore d'offres? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une recherche sur ce sujet ou un besoin de normalisation ou de label?
Ce n'est pas un risque, c'est une certitude. C'est-à-dire que pour les gens de mon âge qui ont connu l'Internet des années 2000, on est dans la période du foisonnement, et puis à un moment où ça va se restructurer sévèrement, quoi. Donc on sait déjà que les couches techno sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est un peu dur de le dire à des clients, mais vont très probablement disparaître dans les 3-4 prochaines années quand les grands éditeurs vont arriver. Après, sur la question des labels, en tout cas, nous, notre point de vue, c'est de surtout pas créer de nouveaux labels, mais de fournir de la donnée tangible vers des labels existants. On considère que la lisibilité, donc on travaille sur la base impact, on travaille de l'ADEME sur le carbone, on travaille sur les labels bio, bien sûr, dans l'agriculture, mais de ne pas embarquer en plus cette expertise-là qui nous semble très compliquée. Alors, il y a un contre-exemple, c'est Yuka, hein, qui a créé son propre référentiel et qui a très, très bien marché. Mais quand nous, on a pris l'axe inverse. On fournit de la donnée tangible, on essaye d'automatiser la constitution des labels.
Nous, créer un label, je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport aux données qu'on va utiliser, effectivement, c'est des données qui sont labellisées, de l'ADEME, etc. Donc, c'est des données tangibles. Le tout, c'est de pouvoir les traiter en fonction justement des catégories de dépenses, et c'est ce qu'on fait avec notre algorithme. Après, sur le marché de la néobanque, en tout cas, effectivement, il y a aujourd'hui 19 acteurs de néobanquiers en France, et il y a très peu, ou en tout cas, qui s'intéressent à cette question environnementale, ou en tout cas sociale ou sociétale. Donc, du coup, la question à se poser, effectivement, sur ce marché des néobanques, est-ce qu'il va y avoir une concentration à un moment donné, parce que trois grands acteurs se tirent la part du lion, enfin, se prennent la part du lion, en fait, sur le marché de la néobanque. La question qu'on peut se poser, nous, en tout cas, c'est de se dire, est-ce qu'il va y avoir une consolidation à un moment donné, et où on va être à ce moment-là? Est-ce que le fait qu'on porte ses valeurs et qu'on apporte quelque chose de différenciant va nous permettre d'aller plus vite et de rester sur le marché? C'est toute la question. Donc, l'avenir nous le dira.
Oui, c'est une bonne question. effectivement, alors nous, on est les seuls sur le marché aujourd'hui à avoir cette démarche de partir des données financières et comptables de l'entreprise pour en sortir des indicateurs de performance RSE. On est les seuls. Il existe des choses qui sont plutôt de l'ordre du formulaire, du questionnaire, chronophage à remplir, etc. Je parle bien sur des cibles PME, TPE. Hein. Je ne parle pas du réglementaire, etc. C'est un autre sujet. Donc, bon, on est les seuls. On a même cherché un concurrent d'Europe, on ne l'a pas trouvé. Certainement que d'autres vont arriver. Pour autant, c'est vrai qu'il y a un foisonnement sur ces sujets-là. Nous, on a une notation extra-financière. Il y a beaucoup de sujets autour de notation extra-financière. Parce que, effectivement, beaucoup d'acteurs cherchent à récupérer ce genre de data pour les intégrer dans tout un ensemble de data plus complexes. Notamment, je parle de scoring pour les. On a parlé tout à l'heure là, pour du crédit immobilier ou autre d'ailleurs, hein, peu importe. Donc, on sent bien que le marché bouge dans tous les sens et qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment où ça va aller. C'est pour ça que nous, on se positionne plutôt sur la partie usage. Je reviens à mon propos de liminaire, on dit. On se dit qu'au niveau de l'usage, on est encore très très loin d'une diffusion au sein des entreprises françaises. Déjà, travaillons les usages, faisons en sorte que les gens prennent conscience que c'est important de mesurer ce genre de choses. Et puis, on verra bien comment cela avance. Il y a un article que j'ai lu un peu par hasard hier qui semblerait dire que l'État, pour maintenant débloquer les fonds jeunes entreprises innovantes, crédit impôt recherche, etc., va intégrer des critères RSE, c'est pas très clair, hein, mais dans la démarche. Est-ce que ça ne viendrait pas aussi un peu du réglementaire? Alors, on n'est pas vraiment du fonds réglementaire, mais en tout cas dans l'initiative étatique de soutenir les start-up françaises. Je pense que c'est un ensemble de facteurs dont personne ne sait dans cette salle comment ils vont évoluer les uns par rapport aux autres, qui vont faire qu'à un moment donné, les choses vont se regrouper et ça deviendra plus clair. Moi, j'aime bien le foisonnement. Je trouve que la concurrence, elle est bien. Plus on est nombreux sur un sujet, plus ça veut dire que le sujet est patent. Et voilà. Et donc, c'est bien qu'il y ait tout ce foisonnement aujourd'hui. On verra bien ce que l'avenir nous donnera. Et moi, je suis plutôt content de faire partie de ce foisonnement.
Je répondrai à la question en prenant ma casquette Ecofi et Société de Gestion. En fait, effectivement, il y a un foisonnement de labels, il y a une forte demande. Et je crois que c'est surtout une demande de particuliers, la demande de labels. Et quand on s'adresse à des investisseurs professionnels, le fait de se différencier dans sa démarche, par exemple, d'investissement socialement responsable, ça peut faire la différence. Et un label, c'est quand même quelque chose qui, analyse un petit peu la démarche, en tout cas l'homogénéise, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine pour se distinguer des autres sociétés de gestion et pour montrer la force de son engagement. La deuxième chose que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que là où, par contre, il faudrait peut-être un peu plus de normalisation, c'est dans la démarche qui est demandée là aussi aux investisseurs et aux entreprises de se mettre en ligne avec l'objectif de limitation du réchauffement. Parce que franchement, quand on demande à un investisseur, et c'est le cas aujourd'hui de la réglementation, est-ce que votre portefeuille est aligné sur la limitation du réchauffement à 2 degrés ? Il faut aller poser la question à chaque entreprise, mais le passage des émissions de CO2 d'aujourd'hui à ce qui se passera en 2100 pour une entreprise, ça demande une stratégie à long terme qui n'est pas encore tellement répandue.
Juste apporter un complément à ça, on a un de nos prospects pour l'instant qui est l'un des plus gros fonds français, je ne dirais pas son nom bien sûr, mais qui a beaucoup beaucoup de participation et qui, pour mesurer justement ses performances RSE dans ses participations, a un joli tableur Excel. Hein. Donc voilà, donc il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Ça ne veut pas dire que ce qui est mis en place n'est pas bien, au contraire, c'est déjà bien, mais pour professionnaliser tout ça, il y a encore beaucoup de choses à faire. Quoi.
Et justement, pour accélérer le développement de cette prise de conscience et avec des applications concrètes que vous présentez aujourd'hui, pour vous, les obstacles et plutôt les réponses, si on reste sur ce côté positif, pour aller à l'échelle, comme on dit, avoir un vrai impact.
Moi, j'ai l'impression que le premier obstacle, j'ai pas la réponse, hein, je le dis tout de suite, c'est très lié aux questions de gouvernance. C'est-à-dire que pour commencer à avoir une performance environnementale et sociale fiable, exploitable, on va devoir associer énormément d'acteurs et de métiers, vu la complexité des chaînes de production, de distribution. Donc, il va y avoir des éléments financiers, il va y avoir des données tangibles, des stocks physiques à suivre. Il va y avoir un écosystème qui va devoir collaborer pour alimenter la donnée de façon à faire un score sur un simple produit, un produit aussi simple qu'une baguette, on se rend compte que c'est très compliqué de... Donc je ne parle pas d'un Airbus, quoi. D'arriver à un score, quel qu'il soit, qui soit fiable. En plus de ça, il va falloir s'interfacer avec les différents systèmes d'information existants qui font déjà bien le job sur beaucoup de dossiers. Donc, nous, c'est la principale difficulté qu'on a eu. On a eu beaucoup, beaucoup de marques d'intérêt. Et puis, au moment où on bascule sur un passage à l'échelle, c'est-à-dire sur la mise en place d'un écosystème, d'un consortium, d'un vrai projet à taille industrielle, et donc de problématiques de gouvernance, qui décide, qui paye, qui donne les go-no-go, même avec beaucoup de bonne volonté, on a du mal, ne serait-ce qu'à mobiliser les gens, à avoir le temps nécessaire. Et pour moi, c'est la difficulté principale dans la mise en place de scores et d'indicateurs financiers.
Oui, effectivement, justement, la granularité est un vrai sujet par rapport au calcul d'un score ou d'indice ou d'empreinte carbone, parce que effectivement, ça a le mérite d'exister, en tout cas, il faut partir de quelque chose. Mais clairement, un des freins, ça va être de dire, est-ce que moi, ma barquette de fraises que j'achète aujourd'hui, par exemple, elle émet tant de CO2 ou ça a été produit en Colombie, enfin, la granularité est un vrai sujet. Et donc, l'idée, c'est pas tant de se dire, on va avoir quelque chose de très très fin au départ, mais par contre, on est convaincu que demain, avec justement toutes ces analyses d'émissions de CO2 par rapport aux entreprises sur les 3 scopes qui vont permettre d'avoir cette granularité, va faire en sorte qu'on sera de plus en plus fiable, enfin pas fiable, mais en tout cas de plus en plus précis, et d'apporter cette forte demande, justement, que, comme vous disiez, des particuliers, qui est de savoir ce qu'on achète. Le succès du UK, vous en parlez, 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui, ils vont se développer aux États-Unis très bientôt, c'est qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça, et de savoir qu'est-ce qu'on a dans notre assiette et qu'est-ce que l'on achète. Et si on veut le retranscrire en termes de CO2, clairement, aujourd'hui, on ne pourra pas dire, par exemple, vous allez chez Carrefour, je ne pourrais pas forcément tout de suite vous dire, sur votre ticket de caisse, moi j'ai un montant, mais je n'ai pas ce que vous avez acheté. En revanche, ça veut dire qu'il va falloir qu'on engage le client à donner un peu plus de data, plus de données. Donc, on appelle ça le KYC enrichi, on va poser des questions à nos clients. Si le client veut jouer le jeu et savoir effectivement ce que ça représente en point carbone, là, on pourra déjà avoir quelqu'un un peu plus fin. Ça veut dire que le frein, c'est d'être assez, avoir assez de données et pas trop être intrusif. Et encore une fois, c'est d'être d'aller dans la granularité à un moment donné, on s'en prend.
Je rejoins complètement Karim. Je crois qu'aujourd'hui, des méthodes de calcul d'émissions de CO2, il en existe beaucoup. Il n'y en a aucune qui fait loi. Après, c'est des batailles d'experts. Et puis, c'est très compliqué. Hein, si vous prenez un acier qui sert à produire une voiture, en fonction de là où il a été produit, à tel moment il a été produit, dans telle usine, dans quel pays, etc. Enfin, ça devient ultra complexe à calculer. Voilà, donc, bon, ça, c'est l'idéal. Bon, moi, je ne vis pas dans un monde idéal. Pas vous non plus, je pense. Donc, je vis dans un monde qui est celui dans lequel on est. Et il faut déjà commencer par des choses concrètes. Bon, aujourd'hui, je reviens à mon sujet, hein, sur des petites entreprises, PME, TPE, il n'y a pratiquement rien de concret. PME un peu plus, parce qu'il y a des choses quand même qui sont faites, et que à partir du moment où on a des moyens, et surtout qu'on a des besoins de répondre à des appels d'offres ou des contrats cadres, on a effectivement cette pression qui vient des grands donneurs d'ordre, et c'est ça souvent d'ailleurs qui met les choses en marche. Hein. Mais sinon, voilà, dans les autres entreprises, il n'y a pas grand-chose de concret. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'obstacle, il est qu'il faut qu'on fasse, enfin, on sache, faire savoir que tout cela existe et qu'on peut accompagner ces entreprises. Et pour le faire savoir, ben, il faut passer par des conjonctions d'intérêts. Je vous parlais tout à l'heure des experts comptables. Les experts comptables, ils sont dans une révolution de leur métier. Je pense que le monde bancaire est dans une révolution de son métier. Et donc, si nos intérêts, à un moment donné, peuvent se rejoindre et que le besoin de se renouveler pour toutes ces professions-là passe par l'intégration d'un nouveau service, ben, tant mieux pour la planète, tant mieux pour ces sociétés-là, et tant mieux pour nous, et bien sûr, tant mieux pour nos clients. Voilà, je pense qu'il faut aller straight to the point là-dessus.
Oui, je ne vois pas forcément énormément d'obstacles sur ces questions d'entreprises qui se consacrent à la transition écologique, mais quand même, en tant que comité de labellisation de la filière ESS, on est en fait dans un observatoire qui nous permet de voir les grandes modes et les grandes tendances. Il est certain qu'il y a quelques années, on avait vu que l'innovation qui nous était présentée était souvent la même d'une entreprise à l'autre. Et ça, ça peut être un obstacle au développement. Je pense au crowdfunding, par exemple, pendant la COVID. On aurait pu leur dire qu'il y en avait trop, mais à la limite, chacun avait un projet qui semblait individuellement tenir en route. Le risque aujourd'hui, ça peut être un peu ça. Je pense que le domaine quand même de la transition écologique est suffisamment large pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, mais en effet, il est toujours en train.
Justement, dans une logique prospective, quel est votre sentiment et est-ce qu'on va y arriver? Si oui, comment? Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est si vous y croyez un minimum. Voilà. Et comment vous imaginez votre offre et même plus globalement l'insertion et le poids finalement de cette innovation financière dans la transition écologique?
Alors, d'abord, oui, on va y arriver, parce qu'on n'a pas le choix, collectivement. Après, pour chacune de nos entreprises, je répondrai effectivement sur le fait que nous, ça va passer par un développement européen, parce que ce sujet-là, il est clairement, enfin, mondial, bien sûr, mais en tout cas, européen, ça c'est certain. Je pense qu'aussi, ça va passer par un raffinement de plus en plus fin. On a parlé tout à l'heure des données, des datas qui sont aujourd'hui produites. Et donc là, ben voilà, ça va s'améliorer avec le temps. Et puis ça passe aussi par... c'est toujours trop long, hein, quand on est start-upper, on trouve que le temps est toujours trop long. Mais ça passe peut-être par une accélération. Et moi, j'aime bien cette image, elle vaut ce qu'elle vaut. Imaginons qu'on enlève un clou par jour à la Tour Eiffel. Pendant des années, il ne va rien se passer. Et puis il y a un jour, on va enlever un clou. Et là, ça va être le drame, parce que tout va tomber. Et ce dernier clou-là, je ne voudrais pas qu'on attende trop pour l'enlever. Donc, notamment sur cette partie, la transition écologique, réchauffement climatique, etc. Donc, je pense que c'est cette prise de conscience globale, même si elle est très relayée par les médias aujourd'hui, mais dans les faits, concrètement, c'est vrai que ça, dans les entreprises, en tout cas en B2B, on ne la voit pas tellement. Il faut continuer à marteler, il faut continuer à répéter, il faut continuer vraiment à passer par tous les canaux possibles, les fédérations professionnelles, les partenaires, les syndicats, bon, un peu l'État s'il le veut, je vous citais un exemple tout à l'heure à travers le CIR, etc. Mais il faut, voilà, c'est vraiment la responsabilité de chacun de faire en sorte que le sujet avance, et une fois plus, toujours dans un, à mon sens, hein, dans un discours positif. Parce que la menace, c'est le dernier clou, on est d'accord. Mais si on n'arrive pas au dernier clou, ça peut encore passer, quoi. Donc voilà, j'aimerais qu'on reste dans cette discussion d'espoir. Moi, j'ai des enfants, beaucoup de gens ont des enfants en ce moment dans la salle. Pour eux, c'est clair, hein, y a pas de sujet. C'est nos premiers avocats dans notre vie de tous les jours qui nous disent attention, fais ci, fais ça, etc. Mais tous les chefs d'entreprise ont des enfants, la plupart. Mais c'est peut-être par là que ça va passer. C'est peut-être par l'école, c'est peut-être par la prise de conscience des petits qui vont mettre la pression à leurs parents. Il faut qu'elle soit en haut, il faut qu'elle soit en bas, il faut qu'elle soit sur les côtés, il faut qu'elle soit partout. Et à un moment donné, ça va basculer. Voilà. J'attends cette bascule. Et j'espère qu'elle va arriver très vite.
Alors, côté banque, en fait, notre conviction à nous, en tout cas, sur la transformation digitale de la banque, c'est qu'elle a eu lieu, elle a lieu, et que ce qu'on va apporter les néobanques en termes d'expérience utilisateur va devenir la norme. Une banque devra demain proposer à ses clients d'avoir des notifications en temps réel, d'avoir la possibilité de gérer sa carte, ses plafonds, etc. en temps réel, et de pouvoir faire toutes ces opérations de manière instantanée. Notre conviction, c'est effectivement, ça rejoint le sujet des valeurs et de l'environnement, c'est qu'il va falloir apporter un peu plus, et notamment ce sujet qui est un enjeu majeur et qui est primordial pour tout le monde, parce qu'il est global. Et nous, on est tout petit, positif, parce qu'on se dit effectivement qu'il y a un vrai changement aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, il y a beaucoup de choses qui se créent à tous les niveaux, que ce soit dans le côté B2B, B2C, etc. Donc on est plutôt positif par rapport à ce sujet-là. On espère que de toute manière, il n'y a pas vraiment de concurrence en plus dans ces sujets, parce que, par exemple, il y a un Suédois qui se lance demain, on a déjà en discussion avec eux, parce que, effectivement, la discussion qu'on a eue, c'est plus on va être sur le marché pour évangéliser ce marché et faire en sorte qu'on ait une action concrète, et mieux ce sera pour tout le monde. Donc du coup, on ne voit pas vraiment de concurrence, on voit plutôt des partenaires. Et des partenaires, on peut en avoir plusieurs, et notamment dans la fintech ou même les banques. Des fintech aujourd'hui qui proposent du crowdfunding à impact positif en proposant du royalty sur des projets purement impact. Des sociétés, il y a aujourd'hui Ecotri qui propose d'acheter des arbres aux particuliers et d'en faire une source d'investissement. Voilà, c'est des partenariats possibles, c'est des choses qu'on peut faire, et nous, on voit plutôt de l'avenir de manière positive.
La conviction qui anime le projet depuis le départ, c'est que la bascule se fera et on aura gagné le jour où il y aura un alignement entre les grands intérêts économiques et les intérêts environnementaux. Alors, on voit que ça évolue bien, hein, ça converge, il y a de plus en plus de prise de conscience, il y a une réglementation qui évolue bien, il y a des pratiques financières, on l'a vu vendredi, ici encore, qui sont vraiment conscientes, mais on sent bien qu'on n'est pas totalement au bout de cet alignement. Donc ça va passer par du réglementaire, ça va passer sans doute par des attitudes de consommateurs, ça va beaucoup passer par de la donnée de preuve. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'intérêt des acteurs économiques et que l'intérêt défini par les rapports du GIEC se convergent et finissent par s'aligner, est bon à prendre, quoi. Donc je sais, j'ai vu Stéphane Voisin tout à l'heure, je ne sais plus s'il est parti. En tout cas, je vous encourage à lire des talks finance là-dessus, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments sur la question. Mais c'est là-dessus qu'il faut pousser, et puis on voit que tous ces projets-là vont dans ce sens-là. Quoi. Après la vitesse des cours. Mais...
Très bien, merci. Je propose qu'on passe à des questions, s'il y en a dans la salle. Excusez-moi.
Non, mais c'est pas grave, je vais dire une question.
De toute façon, c'était une question pour vous, monsieur Valentin. Je ne sais pas si vous voulez répondre et puis rajouter des éléments. En fait, la question que je me pose, c'est avec votre casquette de président du directoire d'Ecofi, à l'intérieur de la galaxie Crédit Coopératif et donc BPCE, et donc à côté de vous, Natixis Investment Management, vous voyez bien toutes les problématiques que sont en train de s'approprier, la transmission de la data RSE, et en commençant par effectivement le gaz à effet de serre. Comment est-ce que vous l'incorporez dans votre démarche d'investissement au sein d'Ecofi? Vous avez un fonds spécialisé sur ce sujet-là. Comment est-ce que vous appropriez la data, vous la faites remonter, et puis vous choisissez les événements qui font votre force aujourd'hui dans la proposition que vous faites avec les clients institutionnels en particulier? Bon, d'abord, en comparaison tout... même enfin, avec les autres partenaires qui sont moteurs de notre galaxie. Ouais.
Tous nos fonds sont ISR, ce qui est quand même une caractéristique qui est partagée par assez peu de sociétés de gestion. Donc, effectivement, il faut qu'on analyse l'ensemble des sociétés de nos portefeuilles. Pour ça, on a des données qui proviennent d'agences extérieures. Ça coûte assez cher, donc c'est un vrai sujet. C'est extrêmement complet, puisque, en gros, chaque société est analysée sous à peu près 300 critères. En fait, 100 critères, mais sur chaque critère, il y a à peu près 3 axes d'analyse. Donc, c'est extrêmement fouillé, et ce sont les meilleures sociétés qu'on retient dans les portefeuilles. On a par ailleurs, parmi nos fonds qui sont tous ISR, on a des fonds qui sont spécialement dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique. Des fonds labellisés verts d'ailleurs, comme un fonds qui s'appelle Ecofi Agir pour le climat. Alors, au-delà de ce que je viens de dire, il y a un besoin de données tout à fait important autour de l'alignement sur la trajectoire de degrés. J'en parlais tout à l'heure. Là aussi, on a un prestataire, on est en train de sélectionner un nouveau prestataire parce qu'on en change. On a un prestataire qui va nous donner, c'est extrêmement complexe, la stratégie climat de chaque entreprise du portefeuille et même de l'univers de l'investissement. Donc, c'est pas simple, puisque ça concerne des milliers de sociétés. Et comment ces sociétés s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 année après année, évidemment, de la limitation, de façon cohérente avec des scénarios climatiques qui assurent que globalement, l'économie dans son ensemble ne se réchauffera pas de plus, enfin la planète en tout cas ne se réchauffera pas de plus de 2 degrés, voire d'un degré. Donc c'est une véritable industrie de la donnée autour à la fois de tout ce qui est investissement responsable et plus précisément la limitation du réchauffement. Et je crois que c'est dans ce domaine de la limitation du réchauffement qu'il y a le plus de progrès à faire sur le plan de la méthodologie. J'ai pas tout à fait eu l'occasion de conclure, donc je voulais quand même signaler qu'à mon avis, il y a 2 points de vigilance importants sur les questions qu'on a abordées. Le premier, c'est la question de la cohérence entre les entreprises qui proposent des services pour améliorer la transition et puis les pratiques de ces entreprises elles-mêmes. De ce point de vue, je pense qu'il faut clarifier quand même les questions de consommation d'énergie liées à des processus technologiques innovants tels que la blockchain. Parce que des questions commencent à se faire jour, pas forcément légitimes, mais si on n'y répond pas, le soupçon forcément s'introduira sur ce sujet. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand même la transition écologique me paraît devoir être indissociable de la transition solidaire. Alors, on est en train de parler de solidarité avec les générations futures. Ça n'a pas tellement de sens d'être solidaire des générations futures si on n'est pas solidaire des générations d'aujourd'hui. Et on voit bien que quand même les questions sociales sont en train de monter fortement. Alors certes, il n'y a pas de GIEC de la question sociale, il n'y a pas de limitation du des inégalités à 30%, mais je pense qu'il y a quand même une proximité des deux problématiques, et c'est pour ça que nous, on appelle de nos voeux dans le comité du label des propositions pour labelliser des entreprises en tout cas innovantes dans le domaine de la transition écologique et solidaire.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Je vais être en colère. Bonjour. On voit bien que tous les enjeux sociaux et climatiques sont au centre de tous les intérêts maintenant. Il y a beaucoup d'initiatives vertueuses pour avoir la bonne data, pour s'assurer qu'il n'y a pas de green social washing se mettre en place, et c'est clairement indispensable. Mais le consommateur ne va-t-il pas réclamer aussi plus de visibilité sur la zone d'ombre de l'activité des entreprises ? Parce qu'on passe beaucoup, ne devrait-on pas aussi consacrer un peu d'énergie à plus de granularité dans l'analyse de la partie grise, la partie brune, pour limiter les impacts négatifs et en plus d'augmenter les impacts positifs ?
C'est quoi pour vous la partie brune ou grise ?
Si vous avez une entreprise qui fait un reporting développement durable, irréprochable, en ce sens que toutes les activités sociales ouvertes qui sont présentées sont réelles dans l'entreprise, mais qui finalement fait fort peu de reporting sur toutes des activités peut-être beaucoup ou qui ont un impact très négatif, que ce soit environnemental ou social. Et là, il n'y a pas de reporting, là, il n'y a pas d'exigence. Là, il y a peu de... Enfin, en tout cas... probablement moins de transparence.
Je vous rejoins, de toute façon, tous ces systèmes-là dont on parle, ils ont du sens que s'ils sont transparents. Et on parle depuis tout à l'heure, on l'a dit, de Yuka. Enfin, pourquoi Yuka réussit ? Parce que ça nous paraît transparent. Hein. Voilà. Et donc, effectivement, moi, je rêverais que le Yuka de la RSE pour les entreprises françaises, c'est mon but ultime, et que demain, vous puissiez aller voir votre artisan, votre... peu importe, une entreprise, et que vous puissiez dire, mais tiens, j'ai envie de travailler avec parce que elle a des valeurs, elle a un comportement qui me convienne. Maintenant, c'est très compliqué d'avoir une transparence totale. Voilà, on l'a dit, hein, c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, la mesure de cette performance, elle est parcellaire, elle est pas idéale. Alors, en tout cas, en ce qui nous concerne, mais au moins, elle a le mérite d'exister. Et c'est en fait, c'est tout le débat est là. C'est-à-dire que et je rejoins aussi la partie solidaire et l'impact sociétal, etc. Moi, je pense que en fait, la pression, enfin, plus, elle va venir du marché, elle va venir du consommateur, elle va venir de des gens qui, aujourd'hui, en ont marre de se faire avoir, entre guillemets, et qui, quand ils achètent un produit depuis 5 ans et qui font un coup de Yuka, ils disent « mais c'est pas possible, j'ai mangé ça depuis 5 ans, mais il y a un additif qui est dangereux et personne ne me l'a jamais dit. » Alors, on aurait pu lire la recette, mais voilà. Et donc, c'est ça, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'acculturation à tous ces sujets. Elle est encore légère. Mais cette pression, elle monte. Et c'est pour ça qu'au tout début, je parlais de compétitivité. Si on veut faire changer aussi les mœurs, parfois, de certains dirigeants d'entreprise, enfin, je me pose sur le côté B2B, il faut aussi qu'ils comprennent que sans ça, ils vont juste mourir. Leur boîte ne marchera plus. Ils n'existeront plus. Voilà. Donc, et s'ils bougent avec peut-être ce côté un peu coercitif, un peu défensif, mais ils bougeront quand même. Et puis après, ils bougeront peut-être pour des valeurs qui sont plus positives. Voilà.
Je voulais simplement ajouter un point, c'est que quand on regarde les entreprises sur un nombre de critères suffisant et qu'on ne se contente pas de lire leur propre déclaration, il y a quand même des critères qui ne manquent pas. Les accidents du travail, l'absentéisme, le turnover, tout ça, vous ne pouvez pas le cacher. Et les indicateurs dont nous servons grâce aux agences qui nous les fournissent, ils incluent ce type de chiffres.
Excusez-moi, je me permets juste d'intervenir pour faire un rappel. En introduction, on a parlé, je ne sais pas si tout le monde était présent, on a parlé du fondamental en France en 2002, on a loupé le coche. Tout ce que vous citez, c'est applicable depuis 20 ans dans le cadre de soft law. La problématique, c'est que c'est applicable depuis 20 ans avec des soft law, sans pénalité. Les 95 critères, alors les 60 et quelques qu'on retrouve dans l'article 16 de la loi NRE du 20 février 2002, ils existent. Ils sont remontés, ils étaient remontés dans les documents de référence, d'abord CAC 40, ensuite SBF 120, SBF 250, et ça devrait être étendu. C'est une baseline qui existe depuis. C'est constitué depuis 20 ans. Donc ces informations, elles existent, elles sont remontées, elles font l'objet de documents de référence. On les retrouve, elles concernent les problématiques énergétiques. Ce sont ces informations qui font, par exemple, qu'on peut considérer que des grands acteurs pétroliers français, dont je ne citerai pas le nom, c'est sur la Total après, sont considérés comme peuvent être bien notés parce qu'ils ont une démarche d'investissement, parce que justement ces entreprises remontent leurs investissements dans la transition, dans les nouvelles énergies, et ce depuis de nombreuses années. Donc on a cette problématique, et je reboucle, et après je repasserai la parole aux intervenants, de connecter les points. Enfin, l'information elle existe, on a un certain nombre d'acteurs qui travaillent dans le domaine des fintech et du périmètre ISR, ESG, la transition énergétique, sur comment s'accorder sur les différentes actions de connecter les points, de mettre en place les référentiels. Et je repasse la parole aux intervenants.
Oui, non, c'était juste pour ajouter un point sur la zone d'ombre. Nous, c'est un des points que veut aborder et que veut affronter la solution, c'est-à-dire ne plus prendre un score ou un impact énergétique ou social simplement par le biais du périmètre de l'entreprise, mais par le biais du périmètre d'une supply chain. Parce qu'on peut avoir une entreprise extrêmement vertueuse qui, à un moment, va déléguer à un transporteur, à un prestataire, qui sera forcément souvent plus petit, moins impliqué, et là dégrader le score. Donc c'est un produit aujourd'hui, c'est plus l'œuvre d'une entreprise, c'est l'œuvre d'une supply chain, et c'est ce qu'on essaye de suivre. Après, il y a quand même un danger, c'est de ne pas jeter la suspicion trop rapidement, parce que sinon on va décourager les efforts. Tout ce qui est fait, voilà. Donc pas remettre systématiquement en question les efforts, même si on sait qu'ils sont parcellaires, qu'ils sont limités, qu'il y a des zones d'ombre, il faut quand même continuer à les valoriser. Oui, il y a... Oui, il y a des angles morts, c'est clair.
On avait une troisième question.
Oui, bonjour. Le débat que j'ai entendu aujourd'hui me semble extrêmement franco-français, alors que la pollution, en particulier côté énergétique, elle vient de Chine, ou elle vient d'autres pays qui vont remettre le charbon. Comment vos indicateurs peuvent aider à faire pression contre ça en développant l'offre française?
Je vous laisse répondre.
Une des solutions, enfin par rapport à nous, ce qu'on propose, c'est au travers d'être éco-coach, c'est grosso modo de favoriser l'achat des produits locaux. C'est-à-dire qu'une marque plutôt qu'une autre, une marque française plutôt qu'une marque qui a été produite en Chine, transférée à l'autre bout du monde, etc. C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui en France, et ça c'est très peu mis en valeur, c'est qu'il y a des marques qui, par exemple, je prends Nike qui fait des baskets. Vous avez aujourd'hui une marque française marseillaise qui s'appelle Corail, qui reprend tout plastique qu'il trouve dans la mer et en fait des baskets. Donc il y a des produits comme ça qui sont intéressants, mais qui sont très peu connus du grand public et qui ont du mal à émerger. Donc l'idée, c'est aussi au travers de l'analyse des dépenses, d'aller proposer des alternatives, et des alternatives plutôt locales. Et forcément, acheter du local fait qu'on émet de moins en moins, on émet moins de CO2 à partir du moment où effectivement le reste aussi suit au niveau du système de production, d'approvisionnement, etc.
Pour nous, c'est un peu la même logique, en fait. On va travailler sur les émissions carbone par KE de coût. On va regarder les achats d'entreprises. Et effectivement, on peut tracer si ce sont des achats locaux, nationaux ou internationaux. Bon, après, il y a toujours le biais de l'entreprise, effectivement, à qui vous achetez des produits, mais qui les a elle-même emportés de l'autre bout du monde. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre moyen que le tracer comme ça. Je pense qu'avec des technos comme la blockchain ou autre, on va pouvoir améliorer le processus au fur et à mesure. Mais souvent, les gens à qui on s'adresse là-dessus, ils ont pas ce niveau de conscience que vous avez, qui est réel. Hein. Et ils ont même pas forcément la conscience de polluer. Quoi. Donc, ils s'en fichent un peu. Donc, c'est juste déjà commencer par la base et essayer de leur amener, les amener sur le chemin sur lequel on veut tous les amener.
Les fonds d'investissement ne se contentent pas d'investir en France, ils investissent dans le monde entier. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que globalement, les sociétés européennes sont beaucoup mieux évaluées sur le plan environnemental, aussi d'ailleurs sur le plan social et de gouvernance, que, je parle en moyenne, que les sociétés américaines ou asiatiques.
Est-ce qu'on a une dernière question ? Très bien, du coup, je vous remercie et je laisse la parole à la...